nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Bordel en réveillard Saint-Charles, boisé sur le slalom, mes zigzags.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Lundi tout le monde, il est 16h. Mon nom est Félix Duchesne et je suis votre animateur de Chérie J'arrive. On est ensemble pour une heure et demie. Aujourd'hui, je vous ai préparé une belle émission. On va commencer avec les Lunatiques et Antoine Bourg qui va venir me parler de leur projet Cache-Cache qui est sorti vendredi. Je vais aussi parler avec Anthony Lajeunesse pour sa chronique Popcorn. Je vais parler avec Sébastien Pilote pour le film Maria Chapdelaine. Je vais parler avec Gab Tremblay parce qu'il est allé au Festival de Jazz de Montréal. Et je vais terminer l'émission avec David Couture. Il va me parler de son projet Sortir qui lui est sorti vendredi. Comme à chaque semaine, ben, je vous fais jouer de la musique qui est toute nouvelle. Je vous parle de nouveautés d'art et de culture. L'émission du vendredi, du lundi. Je suis mêlé. C'est le lundi 20 septembre. C'est le jour de vote. J'espère que vous avez voté. Sinon, faites ça avant que les bureaux ferment. Chérie, j'arrive du 20 septembre. Ça commence maintenant. Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive. Et vous écoutiez Cathy Mini, c'est la première chanson du EP Cache-Cache des Lunatiques. Et je suis avec Antoine Bourg que vous entendiez au chant. Salut Antoine, ça va?
Bonjour, ça va bien toi?
Ben oui, ça va super. Je suis content de te parler aujourd'hui parce que Cache-Cache, c'est un gros projet, une grosse sortie pour la ville, la capitale nationale, la ville de Québec. J'espère que tu es content aussi d'avoir sorti ça. Comment est-ce qu'on sent après une sortie comme ça?
Ben, ça fait du bien. Et là, on a travaillé relativement fort, juste relativement, parce que on a moins poussé ça pour cet album-là, c'est-à-dire en termes de... Il a été fait, en fait, dans l'optique où on va faire les choses plus rapidement, mm-hmm. pour garder la musique plus pure. Mm-hmm. Mais en même temps, avec cet album-là, on a pu signer avec le Pantoum.
Ouais.
Puis on a pu s'entourer de gens qui nous ont beaucoup aidés. Puis ça a été... Puis là, enfin, c'est sorti. Fait que oui, très content. Ça fait du bien.
Fait que tu dirais que c'est l'album qui a été le plus... Tu parlais de pureté. C'est l'album qui a été fait pour, justement, garder l'essence même des Lunatiques?
Ouais, ben en fait, dans les albums, les EP précédents, mm-hmm. on avait fait ça plus... c'est-à-dire avec beaucoup de layers, beaucoup de takes studio et tout. Mm-hmm. Puis pour tout le temps aller chercher le... Là, on est décidé. L'album Cache-Cache, en fait, il s'est fait en 20 jours. C'est-à-dire, les tunes, ils se composaient la journée même. Les paroles, ça s'enregistrait la journée même. Toutes les tunes dans l'album ont été composées en pas plus que 2 heures. Puis, c'est comme... On voulait aller aussi dans cette optique-là pour garder ça le plus pur et le plus spontané possible.
Mais en même temps, tu dis ça, peut-être que c'est cette spontanéité-là ou cette pureté-là dont tu parles qu'on entend, mais pour moi, c'est pas contre les autres projets, mais pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur,
ouais,
Cache-Cache.
Ben, écoute, nous autres aussi, on trouvait que ça avait de la gueule.
Tout à fait.
Ouais.
Tu parlais de ton entourage de Pantoum Records avec la maison de disques avec laquelle vous avez signé. Vous avez une nouvelle acquisition aussi. Avec les Lunatiques, on va la nommer. C'est Ariane Roy. Comment s'est faite cette acquisition-là d'aller chercher une artiste qui est en vogue comme ça?
Oui, ben en fait, Ariane et moi, on était au Cégep en musique ensemble.
OK.
Fait que ça fait longtemps qu'on est des très bons amis. Mm-hmm. Puis, moi, j'avais toujours été le seul à jouer de la guitare dans le projet. Puis, je voulais... J'avais des idées de composition là où ce que j'avais besoin d'une deuxième guitare, puis mm-hmm. en plus des back vocals solides. Puis ça a pas été long que j'ai pensé à Ariane. Mm-hmm. Mais elle était all in, puis elle était très contente de faire de quoi de plus rock.
Ouais.
de sortir son fuzz, puis elle exécute à merveille. À merveille son rôle, c'est vraiment super de l'avoir dans le groupe.
Ben oui, c'est un bel ajout au roster des Lunatiques.
Oui.
J'ai envie de te poser des questions sur votre single que vous avez choisi, qui est, on pourrait peut-être dire, la chanson la plus forte du EP Cache-Cache. Je parle de Françoise.
Oui. Oui.
Évidemment, c'est un cri du cœur. Tu veux que cette Françoise-là t'entende. Est-ce que Françoise, c'est une personne qui a été imaginée? Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Parle-moi de justement... Mais... Françoise.
Ben oui, c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Puis j'espère qu'elle n'entend pas ça, parce que c'est un peu gênant des fois, là, mais en même temps, je trouvais ça plus vrai de dire son nom pour de vrai. Mm-hmm. Mais elle le sait pour cette unité. On s'est parlé au téléphone, tout est correct.
Okay.
On s'entend bien, ça va. Il n'y a pas...
Donc, il n'y aura pas de sacres qui vont être associés maintenant à cette...
Non, non, non. Mais ça a été inspiré, tu sais, d'une histoire qui est moins bien finie. Un peu comme ça peut arriver à tout le monde. Vous savez, hein, l'amour, hein, des fois,
ouais.
Ça rend fou.
Ça rend fou.
Mais c'est ça. Donc... Ben, c'est ça, ça avait fini un peu en queue de poisson. Puis j'avais écrit des paroles par la suite.
Ben, moi, ça l'a fait d'une très, très bonne chanson. Ça, c'est,
ben selon... oui, ben c'est ça, je me suis dit. J'ai peut-être été triste, mais des fois, faut que tu sois triste pour sortir des maudites bonnes tunes. Fait que c'était bon pour la cause.
Voilà, tout à fait. Tu parlais tantôt de ce projet-là qui a été fait très rapidement, qui a été fait pour garder la spontanéité. Pour la suite des choses, là, je sais évidemment que tu es beaucoup occupé avec le projet de Valence, dont tu fais, mm-hmm. entre autres, le saxophone avec une main dans le dos. Mais pour la suite des choses, des Lunatiques, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des sessions, comment je pourrais dire ça, de musique rapide qui sont prévues? Qu'est-ce qui s'en vient pour l'automne, pour 2022?
Ben, encore là, j'ai vraiment aimé la façon dont on travaillait le nouveau EP.
Ouais.
Puis, je pense aller encore dans cette optique-là, mais là, vu qu'on vient signer avec le Pantoum, on a maintenant accès au studio, puis on va probablement justement travailler encore un peu de la même manière, mais là, on va peut-être rajouter un petit peu plus de synthétiseurs.
OK.
On a déjà eu un nouveau membre qui va probablement intégrer bientôt le band. Puis, dans le fond, c'est ça. On est déjà... Vous savez, c'est les tunes, ils sortent, ils viennent de sortir, mais moi, j'ai pas arrêté de composer. Fait qu'il y a déjà du nouveau matériel qui est en construction. Puis, on est en train de monter un album en ce moment.
Ouh!
Ouais, ça se travaille. Ça va être plus de synthétiseurs. Je dirais même un petit peu dance des fois.
OK.
Ça va faire un peu danser cette histoire-là.
Tout à fait. Parce que là, avec Cache-Cache, on a quelque chose qui... moi, quand j'entends ça, quand j'en parle aux gens, il y a souvent le nom de Robert Charlebois qui ressort parce qu'on voit des influences. Est-ce que t'es d'accord avec cette influence-là? Est-ce que ça t'a inspiré, sa musique?
Ben écoute, c'est complètement ma tasse de thé, Robert Charlebois. Là. C'est vraiment... J'écoute beaucoup de Robert Charlebois. Fait que les gens ils disent pas fou quand ils parlent de lui. Ça fait partie de mes influences, en effet.
Fait que pour la suite des choses, avec plus de synthé, on reste dans cet univers-là? On va vers quelle influence?
Ça va aller un petit peu partout. Là, ce temps-ci, j'ai écouté beaucoup de Talking Heads. Okay. Je sais pas si tu connais.
Vite comme ça me dit pas quelque chose.
C'est comme un band des années fin 70-80. Je suis pas mal... C'est comme un peu New Wave, là. Mais je suis un peu... J'écoute tellement de musique, puis je suis pas du genre à rester stické sur un style. J'aime ça aller d'un bord puis de l'autre. Fait que j'ai comme mes phases. Là, c'est sûr, il y a toujours la petite touche vintage là, qu'on peut qui fait un peu Charlebois, mettons. Mais c'est dans pleine direction. C'est très très éclectique là, les Lunatiques. Fait que c'est Donc c'est pas mal ça.
Tout à fait. Ben, vous avez bien votre nom, vous l'avez bien choisi, d'aller justement un peu dans toutes les directions, de vous permettre d'être lunatique comme ça. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, Antoine Bourque, chanteur des Lunatiques. On te souhaite quoi? Ou veux-tu dire des shout-outs? Ou je te laisse le mot de la fin. Dis ce que tu veux.
Un shout-out. shout-out à Ozzy Osbourne. J'aime bien ce que tu fais. J'espère que tu nous écoutes en ce moment.
Mm-hmm.
C'est correct, ça?
On le salue, puis moi, je te salue. Je te souhaite une bonne journée, un bon avenir, puis on se reverra.
OK. Mais merci beaucoup.
Salut.
Salut.
Just
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez J'ai le goût d'une slutch avec les lunatiques et on est un peu dans le même thème, là, slutch, popcorn. C'est la chronique popcorn d'Anthony La Jeunesse. Salut Anthony, ça va?
Oui, ça va bien toi?
Oui, après avoir un retour à l'école, on a un retour au cinéma. Tu nous parlais la semaine passée d'un Marvel qui peut-être va... rester à travers le temps comme un des meilleurs Marvel. On a parlé de Shang-Chi et des 10 anneaux. Là, tu veux me parler plus d'un contenu virtuel, de contenu sur Netflix. Je te laisse présenter des sujets.
Ouais, ben j'ai trois sujets aujourd'hui. Je vais vous parler d'un film Netflix que j'ai écouté la semaine dernière, une série sur Apple TV Plus que j'ai écouté cet été. Finalement, je vais parler de Shang-Chi parce que les résultats du box-office sont sortis. Puis il y a une petite nouvelle par rapport à ça.
On va commencer par Netflix, peut-être?
Ouais, je vais commencer, c'est ça. La semaine passée, un mardi soir, je me cherchais de quoi faire. J'étais tranquille chez nous. Fait que comme beaucoup de monde font, je pense, j'ai ouvert Netflix. Souvent, à l'habitude, je me promène sur Netflix, puis pendant 30 minutes, j'ai rien trouvé. Mais je suis tombé sur le film Kate. Kate, le prénom Kate, K-A-T-E. J'avais vu l'annonce il y a peut-être 2 mois, je m'en rappelle. Puis je m'étais dit, je vais écouter ce film-là. C'est un petit film d'action, c'est une histoire de vengeance. C'est une sorte de John Wick, version féminine. T'écoutes la bande-annonce, tu peux probablement deviner comment que le film se passe. C'est un petit film, un petit divertissement, pas plus, pas moins.
Ça, habituellement, c'est pas un très bon signe si tu vois la bande-annonce puis tu vois tout le film.
Effectivement. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai aimé le film. C'est un petit film d'action. Les scènes d'action sont bonnes. Ça l'arrête là, par contre. Oh! Il n'y a pas nécessairement d'autres qualités. Il n'y a pas, attendez-vous pas une performance d'acteur ou une histoire incroyable.
Donc, c'est plus un rose que tu es en train de faire pour le film Kate.
Ben, oui et non. Là. C'est vrai que, comment je pense, ça ressemble de ça. Mais je donnerais peut-être un 6 sur 10.
OK.
Ça passe.
La note de passage.
Si vous savez pas quoi faire, il pleut dehors, vous cherchez un petit film, vous voulez mettre votre cerveau à côté, vous cherchez pas de quoi de spectaculaire, mettez ce film-là. Puis il y a même l'acteur Woody Harrelson, quand même assez connu. On a vu dans Zombieland, on va voir dans Venom dans 2 semaines.
Ouais.
Fait que ça fait une petite cerise sur le Sunday. Fait que je le conseille, mais à un temps, un bon temps choisi.
D'accord, tout à fait. Voilà pour un film qui Netflix peut vous conseiller, mais on verra. C'est l'année de passage, on peut passer peut-être à ton autre sujet.
Oui, ben c'est cet été, j'ai découvert une nouvelle série, puis ça fait longtemps que je vais en parler, parce que je trouve que c'est une série, honnêtement, c'est la série la plus estimée, je crois, que je connaisse.
Ah oui?
La série s'appelle « Si », le verbe « voir » en anglais, S-E-E, ou « Jour noir » en français. Traduction, je comprends pas, mais bon. C'est une série d'action science-fiction. C'est Jason Momoa dans le rôle titre. Jason Momoa qui est maintenant Aquaman. Sinon, on a pu le voir dans Game of Thrones au début de sa carrière. Mm-hmm. Ça se déroule dans un futur apocalyptique. Dans le fond, il y a une sorte de virus qui a fait perdre la vue à toute la population. Mm. La série commence peut-être 200 ans après l'arrivée de ce virus-là. Fait que tout le monde est aveugle.
OK.
C'est divisé comme où sont. La population est rendue divisée en clans. Puis évidemment, les clans, ils s'aiment pas tous. Il faut du drama un peu. Là, la population, en fait, elle a trouvé un nouveau moyen pour vivre, communiquer, chasser, etc. Mm-hmm. Donc, ça part de là. Et l'événement déclencheur, c'est y a 2 jumeaux naissants qui naissent avec la vue, en fait. Fait que là, c'est comme deux... Il y a du monde qui en a peur, il y a du monde qui est OK, la vue est revenue. Fait que la série part de là. En fait, le premier épisode, il commence avec la naissance de ces 2 jumeaux-là. Fait que c'est une série assez originale, c'est pas une histoire qu'on entend souvent. Honnêtement, c'est ça la plus grande qualité de la production. Faut se laisser aller pour apprécier, parce que honnêtement, tu sais, je dis l'histoire, puis tu peux OK, c'est peut-être un peu absurde. Mm. Ça amène beaucoup d'invraisemblance, en fait. Des fois, surtout les personnages, par exemple, sont habillés, les femmes sont toutes bien habillées en robe. Fait que tu te dis, pourquoi elle est habillée? Personne ne la voit. Même chose, je veux rien dire, évidemment, mais dans un épisode, le héros principal, il sauve son fils comme un peu de dernière minute, mais tu te dis, comment il l'a retrouvé aussi facilement? Puis où lui, il met son épée pour bloquer le coup fatal à la dernière minute comme ça. Mais... ça reste une série de science-fiction, fait que je pense que si tu oublies ça puis t'embarques, la série devient très bonne. Mm-hmm. C'est une série de 8 épisodes, c'est pas long, c'est des épisodes de 50 minutes. La saison 2 sort, elle est sortie peut-être un mois, mais j'attends. J'ai beaucoup d'attentes pour la saison 2, mais j'attends parce que c'est un épisode à la fois. Mm-hmm. Fait que je veux mes binge-watch, comme on dit.
Fait que t'attends qu'il soit tout sorti.
C'est ça, j'attends qu'il soit tout sorti, puis je veux m'éclencher.
Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit par rapport au fait qu'il faut se laisser le temps un peu de comprendre l'univers, porter attention aux détails. Pourtant, c'est 8 épisodes, c'est quand même 50 minutes. Donc ça, c'est pas beaucoup de temps, mais 8 épisodes, c'est pas énormément.
C'est assez court. Moi, j'ai écouté le premier épisode. J'étais « OK, ça a de l'intérêt, mm-hmm. ça a peut-être un potentiel. » Mais encore là, c'est le premier épisode, il commence avec une grosse bataille. Puis tu te dis « Comment ils sont aussi bons pour se battre s'ils voient rien?
Ouais. »
Fait que faut que t'embarques. Mm-hmm. Mais si t'embarques, c'est très bon.
Okay.
Et je comprendrais quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai commencé cet épisode-là, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, genre. » Mais moi, c'est pour ça que je dis que c'est une série de science-fiction, fait que tu te laisses aller là-dedans, puis tu vas finir par apprécier. Il y a beaucoup d'action, puis comment que c'est filmé, c'est souvent en plan séquence, fait que ça fait très réaliste.
Okay, ouais.
c'est des bonnes... C'est honnêtement, je pense que c'est le point fort de la série, mm-hmm. avec l'histoire.
Ouais.
Comment, parce que comme je viens de dire, ils sont aveugles, fait comment ils se battent, c'est nouveau, on voit pas ça souvent.
Mais comme tu as dit, c'est une série qui est filmée 200 ans ou je sais pas exactement le nombre de temps, donc ils ont peut-être eu une adaptation.
C'est ça, c'est dans le futur, futur lointain, puis mm-hmm. tu vois que la série commençait, puis ils ont eu le temps de s'adapter avec ce fameux virus-là.
Donc on se dit, se battre, ils ont découvert une nouvelle façon, ils ont évolué.
C'est ça,
en
exact.
Perdant un sens, si on peut dire ça.
Ouais. C'est une série que je conseille, puis. Est pas connue parce que, premièrement, elle joue sur Apple TV+. Puis c'est une chaîne de streaming qu'il n'y a pas beaucoup de monde ont. Mm-hmm. Puis pourquoi? Ben, premièrement, elle est moins connue parce qu'il y a moins de stock. Il y a beaucoup moins de stock qu'un Netflix ou qu'un Amazon. Mm-hmm. Mais c'est qualité avant quantité pour okay. Apple TV. Mm-hmm. Je me suis abonné à ça cet été. Puis j'ai écouté mes meilleures séries. J'ai écouté le Morning Show, la matinale en français, avec ouais. Steve Carell. Puis mm-hmm. Steve Carell, désolé. Et Jennifer Aniston, c'est un excellent drame. Il y a aussi la série comédie Ted Lasso. Et juste hier, c'était les Emmy, a gagné 4 prix. Mm. Fait que c'est pour ça qu'un peu, c'est une série qui est oubliée. Puis elle serait sur Netflix, honnêtement, ça serait un hit. On entendrait autant parler que Stranger Things mm-hmm. ou Casa de Papel,
ouais.
si je me trompe pas. Fait que c'est, je la conseille, abonnez-vous à Apple TV, honnêtement, vous ne serez pas déçus, c'est juste 6$ par mois. C'est Netflix, je pense, c'est 13. Je veux pas descendre Netflix, Netflix, c'est bien, là. Mais y a aussi, Apple TV, comment ça fonctionne, c'est comme un peu un YouTube, tu peux louer un film, tu peux louer Harry Potter mm-hmm. qui n'appartient pas à Apple TV pour 5$, fait que okay. y a du stock. Fait que je conseille la série C, qui est la saison 2, sort, elle est sortie en fait, si vous voulez commencer saison 2 même.
Ouais. Là, tu nous parles de deux sujets qui sont à faire chez nous, dans notre divan, avec soit notre TV intelligente ou notre ordinateur.
Yes.
Mais on va revenir à ton sujet de prédilection, le cinéma en salle. Et la semaine passée, tu nous as parlé de Shang-Chi, qui est le nouveau Marvel. Shang-Chi et les 10 anneaux. Faut pas les oublier, ça, ces 10 anneaux-là. Puis, il y a eu des résultats qui sont rentrés pour le box-office. Donc, les gens qui sont allés voir ce film-là.
Honnêtement, Shang-Chi a peut-être... C'est un gros énoncé, je vais dire, mais il a peut-être sauvé le cinéma.
Ouh!
Ouais. Pourquoi
plus que Tenet.
Oui. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est le deuxième film produit par Disney qui, depuis mars, est sorti uniquement au cinéma. Mm-hmm. Parce que si les gens étaient pas au courant, dans le fond... On va mettre en perspective, c'est bien dit, ça. Depuis mars, tous les films de Disney, ils sortaient sur Disney+, au prix de 35$, et ils sortaient la même journée au cinéma. Fait que, par exemple, moi, je me rappelle Black Widow, quand il était sorti cet été, ma belle-sœur m'avait dit... Ah, j'irai pas au cinéma, je vais le louer avec mes deux petites soeurs et mon père, on va se faire un popcorn maison, on va le louer pour 35$, ça va nous coûter moins cher qu'une sortie. Je comprends cet argument-là, mais c'est que ça faisait très, très, très mal au cinéma. Mm-hmm. Puis eux, ils chialaient auprès de Disney, puis c'est normal, mais en même temps, eux, Disney, ça reste une question de revenus à la fin. Donc, pas qu'ils s'en foutaient, mais un peu. Mais là, c'est ça. Fait que Shang-Chi, ils l'ont pas fait, puis il a fait 90 millions à sa première fin de semaine, puis... Parti comme il est là, il va être probablement, pour l'instant, il va être le film le plus lucratif pour l'année 2021. Fait que ça montre que les gens ont encore une envie d'aller au cinéma. Si tu sors uniquement ton film au cinéma, les gens vont aller le voir. Parce qu'en même temps, il y a aussi une autre chose. Avant, la fenêtre de sortie, c'était 90 jours. Ton film sortait au cinéma, pendant 90 jours, c'est sûr qu'il ne sortait pas en digital. Mm-hmm. Digital. Peut-être qu'il était pas, il allait pas être, c'est sûr qu'il n'allait pas rester au cinéma 90 jours, sûrement. Mais ça donnait le temps que... Il est à nous pendant 90 jours, mettons, pour un propriétaire de cinéma. Mm-hmm. Maintenant, c'est 45 jours. Fait que moi, je me dis, laissez ce 45 jours-là aux propriétaires de cinéma, puis eux, ils vont pouvoir faire de l'argent, puis ça va créer un buzz
ouais,
autour
ça leur
du concède film.
Un pouvoir d'exclusivité.
C'est ça, exact. Puis après, sortez-le en digital. Fait que là, Disney l'ont fait pour Shang-Chi, puis ils l'ont, même eux l'avaient dit avant la sortie, c'était un peu un test. Fait que ça a fonctionné, c'est une très bonne nouvelle. Ça va encourager même Venom. Il était supposé sortir le 15 octobre. Sony ont vu ça, ont vu les recettes au box-office de Shang-Chi, puis on devancer la sortie, il sort le 1er octobre maintenant.
Donc, si on fait un parallèle, là, on s'en va loin, là, mais durant la COVID, tu es venu à l'émission, tu m'as fait un portrait des salles contre les plateformes de streaming. Puis là, si je comprends bien, la réponse au cinéma, c'est de leur concéder cette exclusivité-là. C'est de dire, les plateformes de streaming vont l'avoir, mais vous allez devoir attendre. Puis si vous voulez vraiment voir le film, puis pas être divulgaché, vous allez le voir au cinéma. C'est bien ça?
C'est ça, mais en même temps, la balle est dans le camp des productions, des producteurs. T'sais,
eux de choisir.
C'est eux qui décident. T'sais, c'est de valeur, mais s'ils disent... On a vu ça avec les films de Pixar aussi cet été. Les films de Pixar n'ont pas sorti au cinéma. Ils ont sorti directement sur Disney+. Puis c'est Disney qui décide ça. Là. Mm. Puis ils consultent pas le réalisateur du film, par
puis
exemple.
Au niveau des ventes, qu'est-ce que ça dit?
Ben, le film évidemment, il est un hit sur Disney+. Mm-hmm. Mais tu peux pas te demander qui aurait fait combien d'argent au cinéma.
C'est vrai.
T'sais, on le sait pas. Mm. Puis même, on voit beaucoup ça... Black Widow, par exemple, ils l'ont sorti sur Disney+. Ils n'ont pas vraiment dit combien il a fait de recettes sur Disney+. Mm-hmm. Ça a-tu marché? C'est-tu payant, cette technique-là? Avec, bref, ce qui est le fun. Là. Puis aussi, l'autre exemple, c'était L'Homme libre avec Ryan Reynolds.
Ouais.
Encore là, il est toujours dans le top 6. Ça fait un mois et deux semaines que le film est sorti. Puis il reste encore dans le top 5 du box-office parce que le seul moyen d'aller le voir, c'est au cinéma. Fait que ça fonctionne.
Mm. Donc, la leçon, ça serait, toi, si tu pouvais parler directement en production, tu leur dirais,
évidemment,
sortez en salle.
Évidemment. Doom, je trouve ça plate parce que ici, il va sortir justement juste au cinéma. Denis Villeneuve a beaucoup chialé sur ça. Mm. Mais aux États-Unis, il va sortir le même jour sur HBO Max gratuitement. Fait que pourquoi le monde irait aussi. Tu sais, il s'enlève des recettes. C'est ça que je trouve. Ouais. Parce que dans le fond, eux, leur argument principal, c'est on offre le choix aux gens.
L'accessibilité.
C'est ça. Mm. Tu sais, les gens, des fois, il y en a qui veulent pas t'en sortir encore, peut-être peu heureux de la COVID, etc.
Ou peut-être aussi juste par confort, tu sais, oui, de rester dans son salon.
Ça reste le fun d'écouter un film dans son salon, je suis d'accord, tu te fais ton popcorn, tu t'assis, t'es confortable, tout. Mais laisser le temps au film à sortir en salle avant.
c'est une bonne leçon. Je pense que ça peut conclure Chronique Popcorn. Allez vous acheter du popcorn à 12$. Ça vaut la peine, même si c'est très cher.
Il est très bon.
Est-ce que tu sais un peu déjà de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine?
La semaine prochaine, Venom, il sera pas sorti encore.
Hmm.
J'attends Venom. Ouais. C'est sûr, dans les prochaines semaines, je vais venir vous parler de Venom, c'est sûr. Il y a aussi le prochain James Bond, je vous ai parlé vite la semaine passée. Il y a un film, Le Dernier Duel, avec, ça se passe dans les années 1400 en France. C'est un film avec Ben Affleck, Matt Damon.
Mm-hmm.
Fait que c'est aussi, j'en ai parlé.
Une grosse distribution.
Et finalement, Dune, évidemment, à la fin du mois d'octobre. Mais il faut que je sois patient, ils ne sortent pas tout de suite.
On attend ça avec grande impatience, cette sortie-là, Dune, de notre cher Denis Villeneuve. Merci beaucoup, Anthony Lajeunesse, d'être passé pour me parler de popcorn. Au retour, on parle encore de cinéma. On parle de cinéma québécois avec Sébastien Pilote, c'est le réalisateur du film Maria Chapdelaine. Restez avec nous, on va en pause publicitaire. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile, suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu veux tout savoir sur les élections fédérales?
Pour avoir les résultats en direct, des analyses pour mieux comprendre, des entrevues exclusives, tout ça et bien plus.
Le lundi 20 septembre à partir de 19h avec Guillaume Bédard et son équipe. Écoute la soirée électorale sur les ondes de Chiz 94.3.
Fantami miri, fantami segena. fantame mi li fantame yo fantani ha mi fantani se fantame mi li fantame yo fantame mi fantame mi la vie ne se résume pas qu'à l'argent fantame mi fantame mi il y a l'amour Fantame doro Fantani ami fantani sega Fantame miri fantame doro
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. On parlait avec Antoline Lajeunesse pour sa chronique Popcorn. Il nous a parlé de nouveautés cinématographiques. Là, on est maintenant avec Sébastien Pilote, le réalisateur de Maria Chapdelaine. Salut Sébastien, ça va bien?
Salut, oui, ça va très bien.
Je suis super content de te parler aujourd'hui parce que au CLAP, il y a quelque chose de bien spécial. Il y a justement la première de cette sortie qui s'annonce assez importante pour le cinéma québécois prochainement. C'est Maria Chapdelaine, c'est ton film. Comment est-ce qu'on sent aujourd'hui de présenter ça au public?
Ben, je suis content. Ça fait deux semaines que je suis en tournée un peu partout au Québec, même à Toronto. J'ai présenté le film un peu partout là, déjà dans plusieurs villes. Mm-hmm. Et là, ça se termine avec Québec et puis à Montréal après-demain. Et ensuite, le film va enfin prendre l'affiche. Là, il va être disponible dans plus de 100 salles à travers le Québec. Ça fait que c'est une grosse, grosse sortie. En temps de COVID, mais je pense que ça va faire du bien là, de lâcher les petits écrans, les zooms de ce monde et de, d'aller devant un grand écran avec une communauté, avec des gens vaccinés. Et puis, je suis très content. En fait, j'ai l'impression d'avoir accouché. Là, je suis en train d'accoucher, de terminer. Là, j'ai hâte à la semaine prochaine en même temps que tout ça soit terminé, que je puisse m'occuper d'autres choses. Là. Pas tout en fait mis au monde, le film, là, mais parce que c'était un accouchement qui était long, tu sais, parce que le film était prêt au mois de décembre, janvier.
Okay.
Puis tous les mois d'attente, là, c'est, parfois, ça peut être... c'est long.
Des mois d'attente qui ont été causés par... vous avez préféré de le lancer justement cet automne où on est plus permissif au niveau COVID, ou c'était pourquoi cette attente-là?
Oui, ben on avait prévu. On avait le plan A, c'était de sortir dans le temps des fêtes, mais on suivait l'actualité de près, là, puis on voyait que ça évoluait. On se doutait bien que ça allait pas être possible, mais si ça avait été possible, là, puis la vague dans le temps des fêtes, ça avait mieux tourné, on aurait pu proposer le film partout au Québec en profitant de l'absence des Américains. Mais là, on voyait bien que ça se pouvait pas. Fait que moi, ça fait mon affaire de sortir à l'automne. Mais on va avoir des gros compétiteurs qui s'en viennent, les James Bond, les Dune de ce monde. Mais je pense qu'on a de bons chevaux de bataille pour se battre contre les Américains.
Oui, tout à fait. Puis c'est une distribution quand même étoffée. C'est des acteurs et actrices qu'on connaît bien ici. Mais rentrons dans le vif du sujet. On parle du film Maria Chapdelaine. Évidemment, c'est de l'adaptation du livre. Comment est-ce que cette adaptation a été pensée?
Ben écoute, il y a beaucoup de monde qui me disent comment ça se fait qu'on fait une quatrième adaptation d'un roman qui a été déjà adapté au cinéma trois fois. Je dis un peu à la blague, s'il y avait eu 10 adaptations du roman, j'aurais voulu faire la 11e. Pour moi, c'est un peu comme réadapter Shakespeare au théâtre. Je pense que les gens, ils pensent, il y a beaucoup de monde qui disent, ben, tu sais, on connaît déjà l'histoire, c'est pas original, on aurait pu raconter une autre histoire, des histoires qu'on connaît pas. Mais quand on parle de ça, quand on parle de cette manière-là, j'ai pas l'impression qu'on parle pas de cinéma. Parce que dans le fond, l'histoire de départ est toujours c'est un prétexte à faire du cinéma. Et avec une vieille histoire, on peut dire des choses nouvelles. De raconter un mythe, de raconter une fable, de raconter une blague même, tout dépendant de la manière qu'on la raconte, on peut exprimer des choses qui sont nouvelles. Puis avec les moyens du langage, avec les langages cinématographiques, ben, je pense qu'on peut exprimer des choses nouvelles avec une vieille histoire. Fait que moi, Maria Chapdelaine, évidemment, c'est un roman que je connais depuis un certain temps, mais c'est vraiment pendant que je préparais mon deuxième long métrage, Le Démantèlement, qui racontait l'histoire d'un fermier qui démantelait la ferme familiale, que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, ça va être mon prochain film. Finalement, j'ai eu le temps d'en faire un autre entre-temps.
Ouais.
Mais pour moi, c'est un film qui est. En fait, le roman me permettait d'exprimer des choses que j'avais déjà exprimées avec mes autres films. Puis, c'est en continuité avec mon travail, je dirais. Là. Fait que c'est pas. Maria Chapdelaine, c'est ça. C'est un... Oui, on le connaît, mais je suis certain que l'histoire, de la manière que je la raconte, ça va être nouveau pour les spectateurs.
Puis j'ai l'impression que ça fait partie aussi du défi de pas nécessairement se l'approprier, mais de raconter cette histoire-là d'un nouvel angle, avec des nouvelles façons, même s'il y a eu d'autres adaptations. Mais là, toi, tu as participé à l'exercice, puis c'est peut-être quelque chose de plus difficile même que d'arriver avec une nouvelle histoire, non?
C'est certain que c'est un peu comme quand on aborde le cinéma de genre. Fait qu'on a affaire avec une multitude de clichés, d'images connues, de références, de codes, un peu comme dans le cinéma d'horreur ou dans le cinéma de policier ou d'espionnage. C'est à la fois un problème, mais une belle affaire, tu comprends? Travailler avec des clichés, ça peut être un problème, mais ça peut être vraiment quelque chose de motivant. Et le fait que les gens connaissent déjà un peu l'histoire, moi, c'est très libérateur, ça me donne des ailes. Ça me permet de me dire, regardez comment moi je vais vous raconter l'histoire, puis tout d'un coup vous allez voir l'histoire différemment. Parce que c'est un roman qui a été largement récupéré par les conservateurs à une époque, le milieu conservateur, religieux, le clergé. Et c'est un roman qui a été enterré, enseveli, je dirais, sur une idéologie conservatrice. Alors que Louis Aymon, c'était complètement le contraire. C'est quelqu'un qui se liait à la petite bourgeoisie, la famille. Fait que c'est un peu étrange, là. Puis qu'on associe ça au roman du terroir, c'est étrange parce que c'est un Français que lui, je savais pas que c'était un roman du terroir, là. C'est des romans qui ont suivi Maria Chapdelaine, qui a servi comme de matrice, c'est ces romans-là qui ont été des tours du terroir. Mais Louis Aymon, on a tendance à l'oublier, mais ce qu'il faisait, c'est des portraits, pas des modèles. Alors, j'ai vraiment voulu revenir aux portraits. Puis, les portraits de qui? C'est les portraits de mes grands-mères, de ma mère, qui a élevé ses 11 frères et sœurs avant de vous élever, moi et mes sœurs. C'est le portrait des gens que j'ai l'impression de connaître, des grands-pères aussi, des mon père. C'est des gens qui avaient le sens du devoir très développé, le sens de la famille aussi très développé, qui acceptaient le patrimoine d'une certaine façon, qui viennent d'un milieu modeste. Fait que, je pense que c'est l'histoire de bien les Québécois, dans le fond, bien les Canadiens-Français. Mm-hmm. C'est l'histoire aussi de mon arrière-grand-père, qui était américain, qui est revenu au Québec à 28 ans, qui habitait à Portland, dans le Maine, qui travaillait dans les factories de coton, mais qui est revenu au Québec, au Saguenay, parce qu'il trouvait ça trop dur là-bas, puis il a été victime de racisme et tout ça. Fait que c'est un peu tout ça, c'est le vrai dilemme de Marie Chapdelaine, c'est partir ou rester. C'est plutôt, je dirais, être ou paraître, être fidèle à soi-même ou adopter le comportement, je dirais, la culture des autres. Mm-hmm. Fait que quand on dit que Marie Chapdelaine doit choisir entre trois prétendants, moi, c'est un peu ça ma lecture. Je pense que c'est faux, parce que le personnage de François Paradis n'est pas une option. Mm-hmm. François Paradis, c'est le prince charmant, c'est l'amour de jeunesse. C'est lorsqu'il disparaît qu'on fait face au réel choix de devenir une femme puis de choisir entre partir ou rester.
Mm-hmm, tout à fait. Et ben on peut en parler aussi de cette distribution-là. Il y a François Paradis, évidemment, qui est une pièce plutôt importante de cette distribution-là. Mais comment est-ce que le choix du reste des acteurs et actrices a été orienté?
Mm-hmm. Ben j'ai choisi, étant donné que le personnage titre, Maria Chapdelaine, est un personnage très connu du public. Mm-hmm. Célèbre, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'aller chercher une jeune actrice qui n'avait pas d'expérience au cinéma ou au théâtre ou à la télévision, donc aller chercher une parfaite inconnue pour le public, qui n'avait pas d'expérience, parce que ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher quelque chose au niveau le niveau du jeu. Je voulais aller plus près d'un jeu qui est plus en retrait, qui est plus dans un très grand naturel, pour que le spectateur puisse y mettre du sien. Je ne voulais pas qu'elle dise avec les mots comment qu'elle se sent.
Okay.
Je voulais vraiment que ce soit le spectateur avec son regard qui puisse s'exprimer lui-même dans le fond. Mais il est entouré d'acteurs très connus comme Sébastien Ricard, mm-hmm. Hélène Florent, Martin Dubreuil, Gabriel Arcand, Gilbert Scott, Danny Gilmore. Fait que d'aller chercher des acteurs d'expérience autour d'elle, parce que c'est un peu ça dans le fond de l'histoire du film. C'est une jeune femme qui est au centre, qui est vraiment le centre de gravité de l'histoire. Mm-hmm. Mais par extension, c'est l'histoire de toute une famille. Et des gens qui tournent autour, qui gravitent autour de cette famille-là, ou l'histoire d'une maison qu'on pourrait dire aussi.
Oui, tout à fait. J'ai envie de conclure cette entrevue en te posant une question sur ce qui s'en vient pour la suite, parce que tu nous as parlé des autres projets d'avant, là, de Maria Chapdelaine, le projet en ce moment dont tu as accouché, comme tu le disais. Pour la suite des choses, qu'est-ce qui s'en vient pour Sébastien Pilote?
Ben là, c'est ça. Je vais observer, je vais regarder les gens, le comportement des gens. J'espère que les gens vont être nombreux à retourner en salle. Mm-hmm. Je me suis aperçu que la pandémie, que le cinéma était un art vivant. C'est un peu comme le théâtre ou les spectacles de musique. On a besoin des gens pour faire des films, d'être mm-hmm. ensemble. C'est un art collectif. Mais aussi, on a besoin pour les montrer. C'est pas pareil de voir un film avec d'autres mondes que de le voir seul sur son petit écran. Et ce film-là, on a voulu lui donner de l'ampleur, là, de l'ampleur en termes de temps. Que je voulais faire une fresque familiale, c'est que je voulais un gros cadre, c'est que la durée du film, bon, c'est plus que 2h30. Mm-hmm. Mais aussi, hein, on a tourné le film en 6K, c'est un peu l'équivalent du IMAX, du 70 mm. Mm-hmm. C'est un film qui a de l'ampleur aussi au niveau de l'image, donc il faut le voir sur le grand écran. Moi, je vais observer ça dans les prochaines semaines, puis après ça, je vais retomber, replonger dans ma lecture et tout ça, puis je vais regarder des films, je vais prendre le temps de développer d'autres projets, mais j'ai pas encore d'idées précises de ça. Sur quoi je vais travailler, pour être honnête. Là. J'attends que la pandémie se tasse.
Ben, on te souhaite la meilleure des écoutes, le meilleur des visionnements, et tu parlais aussi de lecture. Ben, je te souhaite un bel automne et une bonne sortie aussi pour Maria Chapdelaine, qui va être disponible très, très prochainement. Donc, merci beaucoup.
C'est vendredi
directement. On va voir ça pour la fin de semaine aussi. Merci beaucoup, Sébastien Pilote, d'être passé à Chérie J'arrive.
Ben, ça me fait plaisir. Merci.
Au revoir.
de la fraîcheur à celui qui crèvera de chaud. C'est pas la fraîcheur qui donnera la valeur à celui qui pourrit de l'eau. Est-ce que t'es au courant que mes jours sont comptés? Je peux pas voir mon reflet sur ma time story. C'est pas le reflet qui donnera le portrait de ce qui est vrai dans le faux. Go! Tu vois tes options, ça me circonsidérablement. Tu laisses le système décider de tes choix quasi systématiquement. Est-ce que t'es au courant, tu vas diamonder? Qu'on gravit ta devise sur ton circuit doré. C'est pas la devise qui donnera de la franchise au mensonge que tu dis tout haut.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à l'émission et on reçoit maintenant Julie Tremblay en ondes.
Oh mon Dieu, c'est très solennel ton truc.
On te reçoit en studio même. J'adore ça, avoir des entrevues en studio. C'est plus humain, on va dire ça comme ça.
On se fait plaisir après un an à s'être parlé par téléphone ou via Zoom. Là, quand je peux sortir, je le fais pleinement.
Ben, ça nous fait plaisir de te recevoir aujourd'hui en studio pour pas parler de Sarajevo et moi. On parle de Sherpa et de l'artichaut. Ça a lieu en fin de semaine, le 25-26 septembre.
Oui.
Donc, présente-moi un peu ton poste.
Sherpa est un volet de service d'un organisme qui s'appelle Pêche, qui est le plus gros organisme qui œuvre en santé mentale. Il est au centre-ville, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mm-hmm. C'est sur Charest, c'est la bâtisse avec plein de couleurs. Et historiquement, il y avait des gens qui tenaient les colonnes en photo. On enlève ça, mais là, ça aussi, on a ça cette semaine, le 23. On fait un striptease live. Ouh. Sur le boulevard Charest.
Okay.
On va dévoiler les nouvelles colonnes. On a mandaté 7 artistes pour faire 7 muses. Ça aussi, on va l'avoir à l'Artichaut, mais ça, c'est le 23. On a un vernissage, c'est gratuit.
D'accord.
L'Artichaut, c'est en collaboration avec Folliculture, le collectif Ramen, je vais sûrement en oublier. Vincent et moi, on a aussi Top Picard. Bref, on a plein d'exposants en lien avec les Journées de la culture. C'est le 25, le 26, toute la journée, au 5 Jacques-Cartier, au 20 Boulevard Charest-Est. C'est gratuit, c'est très décalé, très populaire, très brut.
On voulait
offrir une offre qui est un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude aux Journées de la culture. Bref.
On a de tout, c'est très diversifié.
Oui. On a des ateliers de BD, de la chorale expérimentale, de la sérigraphie. On a des ateliers de dessin. On a des installations sonores. On a de la poésie sonore. On a plein, plein de trucs. C'est toute la journée.
Il n'en manquera pas. On invite les gens, justement, à y aller samedi et dimanche. J'ai le goût d'y aller pour une question. Évidemment, on ne s'en sortira pas de la COVID. Comment est-ce que ça s'est organisé, cet événement-là, avec toutes les mesures?
Nous, ça faisait longtemps qu'on était tannés de se voir en Zoom, fait qu'on a décidé de faire quelque chose à la fin de l'été. C'est sûr qu'on pouvait pas faire la programmation qu'on fait habituellement, fait qu'on s'est dit, à la fin de l'été, on devrait être capable de se voir en vrai. D'habitude, on a une place éphémère, là, on pouvait pas la faire cette année, donc on a fait condenser tout ce qu'on fait d'habitude dans l'été en deux jours, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs.
Ouais. Tout à fait. Puis, ben, comme tu l'as dit, on a de l'atelier BD, on a Collectif Ramen, on a toutes sortes de trucs qui s'en viennent en fin de semaine. Est-ce que vous aviez une certaine direction en organisant ces événements-là?
On voulait faire des trucs. C'est sûr qu'avec la COVID, là, c'est déjà une direction en soi. Faut faire des choses, il n'y a pas beaucoup de manipulation qu'on peut faire à distance. Fait qu'on a pris une tangente vraiment art sonore. Fait qu'on a beaucoup de choses que les gens peuvent s'asseoir et écouter. Mm-hmm. On a beaucoup d'ateliers de dessin qui peuvent se donner de un à un ou des choses autonomes comme des ateliers de macarons, des ateliers de poésie. Les gens peuvent écrire des petits trucs. Ramen va reprendre ces mots-là, se faire monter des poèmes. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très faciles à adapter à toutes sortes de contextes. Et en soirée aussi, on voulait se gâter. On a mandaté un DJ. C'est pas officiellement une soirée de danse parce qu'il faut pas faire de la danse.
Ça,
mais
c'est empêché,
de l'ambiance sonore, entre parenthèses. On va servir de la bière si on peut la consommer, même en COVID. Puis c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Je vous invite à aller voir sur la page Facebook de Pêche Sherpa. Il y a la programmation. Sur les Journées de la culture aussi, il y a la programmation. Il y a vraiment beaucoup de trucs, mais c'est ça. La direction, c'était vraiment la direction COVID ou pas, on va être capable de se voir en vrai.
Oui, tout à
fait. C'était ça, notre concept.
Fait que le concept, évidemment, de cette programmation-là qui s'en vient en fin de semaine, on le dira jamais assez, c'est le 25 et le 26 septembre, c'est en fin de semaine, samedi, dimanche. J'ai envie de te poser une question par rapport à c'est, dans quel genre de vibe est-ce que les gens doivent arriver pour ces activités-là?
Une vibe festive.
Festive.
Une vibe décalée, une vibe de écoutez, soyez ce que vous êtes. On a vraiment une année difficile, puis on avait le goût vraiment de se faire plaisir, puis être dans un climat qui n'était pas lourd. Mm-hmm. Fait que les activités sont très ludiques, sont très légères, sont très rafraîchissantes. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de fun à monter ce projet-là à cause de ça. Puis je pense que la vibe de tous les organismes avec qui on a travaillé, c'était la même. On avait vraiment besoin de légèreté. Fait qu'il n'y a rien d'impliquant ou trop lourd. C'est vraiment des trucs très digestifs, comme l'artichaut. C'est bon pour la santé.
Tout à fait. J'ai envie aussi de savoir, avec des activités comme ça qui ont été prévues, tu as dit que c'était gratuit, tu as parlé de l'endroit, donc les gens se présentent sur place.
Oui, 20 boulevard Charest au centre Jacques-Cartier dans le parking. C'est sûr que là, on va avoir les choses plates comme le passeport sanitaire, on est bien désolé. Mais en dehors de ça, les gens se présentent, ils peuvent aller voir les horaires, peut-être se présenter pour des activités qui les intéressent plus. Y a des plages horaires pour chaque activité, sinon il y a des activités aussi en continu, peuvent juste se présenter. On a Concentrique qui va avoir de la nourriture qui va être là, on va avoir des rafraîchissements. Il y a des jeux, il y a des ateliers, comme je dis, de macarons, il y a des écoutes qu'on peut faire de façon autonome. Todd Picard a fait le cacophone de Saint-Roch et a essayé de prendre l'essence de Saint-Roch en son dans le cadre des ateliers d'exploration sonore dans la communauté cet été. Fait que là, on peut aller écouter le cacophone, on peut s'asseoir puis écouter le gramophone, qui est une installation que Ramen a faite aussi qui parle de Saint-Roch. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de façon non planifiée.
Donc, arriver au 20 boulevard Charest, samedi, dimanche, soyez prêts à avoir du fun, une vibe décalée.
Venez goûter un artichaut, l'artichaut, puis venez, c'est ça, venez juste voir ce que plein d'artistes de la base ville, de différents organismes font. C'est vraiment une façon, comme la fête de la musique ou les autres, d'autres festivals qu'on a eus cet été, je pense aussi de se remettre en action, de se permettre de revoir des vrais humains et de diffuser l'art d'une façon qui n'est pas trop compliquée. Je pense que c'est ça le but de l'artichaut aussi, de permettre des contacts, de ne pas trop se mettre dans le Ben, dans les affaires plates, j'ai pas le droit de m'approcher. Faut-tu que, peut-être que.
Là, c'est à l'extérieur, on n'a pas assez.
Ça, c'est à l'extérieur. Puis c'est vraiment, on a simplifié au maximum pour que les gens puissent avoir des activités pour toute la famille, mm-hmm. les papas, mamans, fistons, pour différents âges où les gens peuvent juste déguster, goûter de l'art, des choses comme un artichaut qu'on mange pas nécessairement tout le temps, mais qu'on va faire, ben, tiens, aujourd'hui, je vais y goûter.
Tout à fait. On va y goûter. On conseille à tous ceux qui nous écoutent d'aller au 20 boulevard Charest en fin de semaine. À l'artichaut. Ben, je sais pas si tu veux rajouter un mot de la fin ou si on n'a pas... On a pas mal tout dit, je pense. Tout qu'un banquet. On va être là en fin de semaine. Merci, je l'ai tremblé d'être passé.
Merci à toi de nous recevoir.
Je écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Bord de la Réveillard Saint-Charles, boisé sur le slalom et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute local avec Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. On est vendredi, hein, Gabriel?
Je pense que oui.
On est vendredi. Dans ma tête, en tout cas, on l'est, mais on est bien le lundi.
C'est le vendredi
20 septembre.
Du début de la semaine.
Oui, c'est ça. On est lundi le 20 septembre. C'est le temps d'aller voter en ce lundi très jazz. Et toi, tu as vu du jazz aussi en fin de semaine à Montréal. En fait, juste avant que tu me parles des spectacles que tu es allé voir, évidemment, Festival de jazz, c'est pas nouveau. Ça date pas d'hier. Ça fait très longtemps que ça existe à Montréal. Mais j'ai l'impression, moi, quand j'ai vu la programmation, jazz, c'est un terme assez... c'est un peu fourre-tout.
Il faut dire, Félix, que le festival de jazz n'est plus jazz depuis presque 15 ans. Donc, on essaie de toucher à plusieurs styles et non seulement le jazz.
Parce que quand j'ai vu Emma Beko, Nate Husser, après ça, Elisa P, après ça, tu m'as parlé de Charlie Day Wilson.
Charlotte.
Charlotte. J'ai voulu la surnommer directement.
Okay.
Mais justement, fais-moi un retour sur le festival de jazz de Montréal, édition 2021.
Écoute, cette année, évidemment, c'est une édition bien spéciale, alors que tous les spectacles étaient gratuits. Donc, pour le plaisir de festivaliers et festivalières qui se ruaient vers le centre-ville parce que, effectivement, le festival de jazz tient pignon sur rue à Place des Arts depuis belle lurette.
Là, à Montréal, en ce moment, c'est le temps des spectacles. On a eu les Franco. Là, c'est le festival de jazz. Après ça, il y a Pop Montréal.
Pop Montréal qui commence incessamment. Il y a aussi M pour Montréal qui va commencer en novembre.
Pourquoi
fallait aller
au festival de jazz?
Ah! Parce que c'est un rendez-vous grandiose et c'était gratuit. Ouais. Même pour tout le monde. T'sais, nous, on est privilégiés la plupart du temps dans les festivals. Mais là, le commun des mortels pouvait profiter du festival de jazz gratuitement. C'est vraiment chouette. Et la salle de Place des Arts, à la place des festivals sur le parc, on appelle ça l'artère Jeanne-Mance, bref. C'est immense.
C'est très, très grand.
C'est vraiment un cratère autour de gratte-ciel.
Ouais.
C'est vraiment fantastique. Là. T'as une espèce de gros gratte-ciel de Desjardins puis t'as la scène qui est là. Qui, on dirait qu'elle a atterri par un vaisseau spatial.
Ouais.
Moi, j'ai vu trois spectacles, personnellement. J'ai pris, somme toute, c'était une fin de semaine assez tranquille en termes de festival. Je me suis pas rué à gauche et à droite. J'avais booké Basha Boulat, vendredi soir, qui est une chanteuse de Toronto, qui a maintenant troqué la métropole pour une autre métropole.
Ouais.
Elle était à Montréal depuis quelques années, Basha Boulat. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait un peu dans l'adulte contemporain, là, si on veut.
Cette catégorie.
Donner une étiquette vraiment large. Sinon, c'est du folk pop. Donc,
okay.
Elle a une très belle voix, un peu criarde aussi, très, très aiguë par moment. C'est une pianiste, une guitariste. Là, elle était en formule full band avec une section à cordes aussi. Donc, gros spectacle, pas de grosse mise en scène. Là. On s'entend, c'était assez sobre malgré tout. Chaud de début de soirée aussi, c'était pas l'artiste en vedette de la soirée. Par contre, je sais pas quelle mouche a piqué le soundman ou la soundwoman ce soir-là, pendant ce spectacle-là, mais ça sonnait vraiment en mode sourdine. J'avais l'impression que tous les instruments étaient mutés, sauf ceux et celles de Basha Boulat.
Ah oui.
Donc, c'était vraiment bizarre. Drôle de spectacle. Par contre, en somme, justement, la performance personnelle de Bajoblat, c'est excellent. Le piano sonnait super bien. C'était surtout le drum, en fait. J'avais l'impression qu'il était très fade. Ça kickait pas pantoute, mais okay, vraiment pas.
Puis pourtant, c'est ce que ça redonne.
C'est le festival de jazz, là.
Ouais.
Non, c'est
on parlait
sur la grosse scène, là.
On parlait l'autre fois de Marigold qui a fait appel à tu vas me dire son nom, la batteuse des Shirley.
Les Shirley, oui, exactement.
Elle a fait appel pour un peu redonner un oomph à sa prestation, ou
tout
un kick, on pourrait dire.
Hop, ça marchait.
Et puis là, avec le spectacle que tu allais voir, ce n'était pas à son top.
Ah, ben, écoute, il y a peut-être eu un problème technique qu'on n'a pas entendu et divulgué au public, évidemment. Là. C'est sûr que ça arrive, des pépins comme ça. Est-ce que je pense que c'était une question de circonstances parce que le spectacle de fin de soirée était nickel.
D'accord. Donc, passons à ta prochaine prestation que tu es allé voir.
Ben oui, Elisapi. Donc,
oui,
Elisapi, tout à fait. Grande dame, Elisapi, et elle était munie d'une multitude d'invités. Donc, c'était Elisapi and Friends, le concept du spectacle. Faut dire que, Félix, le spectacle du vendredi soir au Festival de Jazz, c'est vraiment une tradition, c'est une communion. C'est souvent le spectacle qui attire le plus de monde. Dans ce cas-ci, je pense pas que c'était plein, loin de là. Par contre, il y avait beaucoup de monde. Puis, on s'entend, là, normalement, évidemment, il y avait pas de passeport vaccinal dans les autres années. Donc, là, on le demandait. Et il fallait quand même acheter des billets, même si les spectacles étaient gratuits. Donc, ça a peut-être un peu dilué l'achalandage. Par contre, il y avait énormément de monde à ce spectacle-là. Il faut dire que l'espèce d'artère, le parking, l'espace à la Place des Arts est immense, donc c'est difficile de fouler tous les espaces. Mais Elisapi, écoute, c'était un spectacle grandiose là, pour un vendredi soir à Montréal. Elle avait une grande compagnie avec elle. On parle de Joe Grass qui a collaboré avec Patrick Watson, Marc-Pierre Arthur, Carquois, etc. Mm-hmm. Une grande pointure à la guitare. Deux guitaristes, dont Joe Grass, Jérémy Essiambre aux percussions, deux percussionnistes aussi, donc c'était comme tout était doublé. Jérémy Essiambre aux percussions, qu'on connaît aussi pour Laurent Nico et Anacnid, donc okay, c'est lui qui fait les. Ben, je pense qu'il est guitariste pour Laurent Nico et il est batteur pour Anacnid. Il y avait aussi trois chanteurs de gorge, les Buffalo Hat Singers, c'était fantastique, avec une espèce de gros tambour en plein milieu de la scène. C'était assez impressionnant à voir.
Comme tu dis, c'était vraiment And Friends, donc
oui,
il était accompagné de toute son équipe.
Et elle les amenait graduellement aussi okay, dans le spectacle. Il y a Dominique Fils-Aimé aussi qui grimpait sur scène avec elle. Donc, c'était capoté dans la tête. C'était vraiment capoté. Il y avait aussi deux danseuses professionnelles, dont Aïcha Bastien Ndiaye, qu'on connaît ici, qui vient de Wendake.
Ouais.
Super populaire. Aïcha, elle a crevé l'écran aussi parce que les spectacles étaient diffusés en ligne gratuitement. Donc, elle a crevé nos yeux et l'écran.
C'était un choix à ne pas manquer. Je l'ai manqué malheureusement. Je n'étais pas à Montréal en fait.
Mais c'est pas grave, Félix. Il y en aura d'autres.
Quel autre, justement, en parlant d'un autre, quel autre spectacle t'as plu où on en parlait avant d'entrer en onde? C'est un peu bizarre de commencer un retour par dire que t'as été un peu déçu, mais le côté album de Charlotte est très bon selon toi aussi.
Ouais, ben elle a lancé son premier long jeu un peu plus tôt cette année. Je pense que c'était au mois de mai, là, si je me trompe pas, Alpha. Après deux EP au fil de plusieurs années de collaboration aussi avec Bad Bad Not Good, entre autres. Donc ouais, elle a joué en fait des pièces de toute sa collection. Donc elle a un peu revisité son ensemble et sa discographie. Écoute, c'était un big band encore là. Elle avait trois choristes avec elle là, pour l'appuyer vocalement. Ça sonnait comme une tonne de briques. Là. Écoute, c'est un gros band. Il y avait un saxophoniste basse. Le saxophone basse, c'est un ostifi de gros saxophone. Là. C'est très rare à voir puis c'est très rare à entendre. J'ai été choyé et on a été privilégié de le voir et de l'entendre. Par contre, non, je me trompe, Colin. Le saxophone basse, c'était le show d'Elisapi.
Ouh! Ben encore une fois, il y avait beaucoup de trucs sur le show d'Elisapi. Mais puis, revenons à Charlotte
Davidson. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que Charlotte Davidson aussi joue du saxophone. Mais un alto, je pense. En tout cas, bref. Là, on me corrigera si je me trompe. Là, puis on me tirera
très
des
jazz, rushs, tout ça.
Mais oui, elle jouait du saxophone aussi. C'est une guitariste à la base et une chanteuse, évidemment. Mais écoute, si le son était impeccable, la prestance de Charlotte était très fade. C'est là le seul bémol, ben c'est un estifié de gros bémol là, quand même, là, mais c'est le seul bémol du spectacle parce que je la sentais statique. On se demandait si elle était à l'aise d'être là, donc on sentait peut-être un malaise, nous, mm-hmm. en recevant le spectacle. La foule embarquait pas vraiment, même si c'est de la néo-soul vraiment langoureuse qui, veut pas, nous... Tu sais, nous procure, nous fait bouger le bassin, là, forcément. T'sais.
C'est supposé là, de faire, faire quelque chose.
Ish, Charlotte, bouge un brin, là. Bouge un petit peu, s'il te plaît. C'était difficile à voir. Parce que on se ferme les yeux, c'est un spectacle merveilleux.
Mm-hmm. Donc, ton clou, si je comprends bien, c'est Elisa Pi, le show du vendredi.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Qui lui a amené beaucoup de monde sur scène pour ton plus grand...
Écoute, puis moi, j'ai pas été là toute la semaine. Là. Il y a eu des spectacles resplendissants, puis supposément sublimes. Là. Il y a eu Flore Laurentienne, Patrick Watson, qui a terminé le festival dimanche. Mm-hmm. Daniel Lanois aussi, de grosse pointure. De Brooks, qui était là le vendredi soir, mais sur la scène alternative. Donc, on en a eu pour tous les goûts au festival de jazz. Moi, les trois spectacles, j'ai été mi chaud mi froid à cause de quelques pépins puis ben quelques lacunes, mais après c'était une très belle fin de semaine puis je me suis posé aussi à Montréal, chose qu'on fait pas tout le temps là. On essaie de combiner nos horaires puis on va aller voir tel ami, je vais essayer d'aller là en très peu de temps, fait que ça finit qu'on se court, puis déjà que Montréal c'est peut-être un peu stressant dans le brouhaha de tout ça parce que ça bouille énormément, tu sais, contrairement à Québec en ce moment qui est un peu plus posé et calme, mais oui là je me suis atterri, j'ai pris des bières au Parc La Fontaine avec des amis, puis on a décroché. C'était le fun.
En allant écouter des spectacles de jazz.
Le festival de jazz est un sacré beau complément à tout ça.
Gratuitement, c'était un beau retour. Merci, Gabriel
Tremblay. Hey, ça fait plaisir, Félix. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un micro, d'ailleurs.
Oui, mais je suis sûr que ce ne sera pas la dernière.
Non, je pense pas. Pas tout de suite.
Je suis pogné avec toi. On y va avec David Couture, la chanson Les Angles Morts, et après ça, ben, je l'appelle et on se parle pour terminer cette émission de Chérie, j'arrive.
Ça me rentre dedans quand je suis seul. Je suis content, ça arrive pas trop souvent. Ça reste jamais assez longtemps pour y jeter un vrai coup d'œil.
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Angle mort, c'est de l'album Sortir de David Couture. Et je suis maintenant avec lui téléphoniquement, radiophoniquement. Salut David Couture, ça va bien?
Salut, ben oui, ça va bien, toi?
Super content de te parler aujourd'hui, de parler de ta nouvelle sortie, Sortir.
Oui.
Tout à fait. Et ben, on s'était déjà parlé pour la première pièce, la pièce maîtresse qui s'appelle Toute la place de ce projet-là. On se reparle aujourd'hui pour le projet au complet. J'ai envie d'y aller pour une question des plus simples. Quoi de neuf?
Quoi de neuf? Eh bien, mon cher, je suis hyper de bonne humeur. Très content que tout ça, ça soit sorti enfin.
Ouais.
Puis là, tu sais, ça commence à rouler un petit peu aussi, là. Les gens commençaient à m'envoyer des petits messages. OK, c'est cool, c'est bon, dans la main. Fait que là, je suis comme, oh man, yes, c'est fait.
Ça commence, c'est fait, puis c'est sorti. Oui. T'en parles un peu dans tes chansons, mais j'ai envie d'aller directement à la source. Pourquoi est-ce que tu as appelé ça Sortir?
Ben, écoute, j'aime beaucoup avoir un petit thème tout le temps que je tricote pour un album en général. Mm-hmm. Des fois, tu sais, je m'écarte un peu de ça, comme mon premier Sahara, tu sais, le premier disque, ça évoque un peu une longue traversée pénible, c'était long, tu sais, le Sahara. Fait que là, les tunes parlent un peu de ça, ça sert d'une autre affaire, puis sortir. Ben, c'est comme sortir de soi un peu, justement, tu sais, c'est comme, je me mets dans la peau, mettons, comme le premier extrait, Toute la place, je me mettais dans la peau de quelqu'un qui faisait de l'Alzheimer, tu sais. Sortir de soi, en fait, je te dirais. C'est pas mal ça, mon gros thème que j'ai tricoté. Là. Fait que, chaque chanson, il y a une petite affaire de tout ça, tu sais. Puis c'est, les trois disques que j'ai faits, il y a tout le temps un thème de même, en fait, que je tripe là-dessus. T'sais, c'est comme une ligne directrice, un petit peu, sinon... pas plus que ça, je te dirais, mais c'est pas mal ça. Là.
Donc, une ligne directrice, évidemment, oui. Après ça, les gens peuvent se l'approprier, l'interpréter de la façon qu'ils veulent. C'est sûr qu'avec une pandémie dans laquelle on essaye de sortir, ça peut aussi avoir une signification de pouvoir sortir pour de bon, pour justement vivre notre vraie vie. J'ai envie de te poser des questions sur le reste des chansons, parce qu'on s'en était parlé pour Toute la place, mais pour le reste des chansons, comment est-ce que ces titres sont venus au monde?
Ben, en fait, là, pour ça, il faut revenir en mars 2020.
Okay.
Je pense qu'on avait jasé un petit peu la dernière fois, tu sais, puis j'étais comme, quand tout shut downé, puis qu'on était comme, il n'y avait plus rien. Là. c'est ça. Fait que tout est parti un peu de ça dans ma tête, mais c'est beaucoup pendant l'été, quand ça a commencé à se déconfiner, etc. Là, je me suis remis à réécrire des chansons et tout. T'sais. Fait que c'est vraiment parti de là. Et puis, quoi, je pense que j'avais fait 35 chansons total. C'est ça. Fait que, finalement, je n'ai comme puisé 20, après ça 15, finalement, il y en a eu 10. Là. Mais tu sais, ça a été un long processus. Pour se rendre jusque-là, finalement, mais regarde, c'est
donc,
la pandémie, on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein.
Tout à fait. Tu parles de 35 chansons que tu avais composées. J'imagine qu'elles portaient toutes un peu sur la ligne directrice qu'on parlait tantôt sur Sortir.
Ben, exactement, c'est en plein ça.
Puis après ça, cette sélection-là, t'es pas le premier artiste qui a cette façon-là de composer plus de chansons, puis après ça, d'y aller malheureusement par élimination. Mais ton choix, est-ce qu'il y avait des critères qu'il te fallait dans tes chansons ou c'était plus au feeling? Comment est-ce que tu sélectionnais ces titres-là qui ont fait la cote finalement pour ton projet Sortir?
Ben, j'aimerais bien ça te dire que je suis un gars de critères, mais je suis pas un gars de critères. Ben oui, là, mais c'est pas mal plus le feeling. Je les écoutais beaucoup. Puis à un moment donné, je trouvais que ça, ces 10 pièces-là, ben ça pouvait être comme se coucher sur un disque.
Ouais.
Ça s'écoutait bien, c'était pas trop long comme album non plus. C'est vraiment le feeling, en fait, Félix.
Super. Ça s'entend, ça s'écoute et ça se comprend. J'ai envie de te poser la question. Est-ce qu'on va te voir sur scène prochainement, peut-être à Québec ou sinon ailleurs au Québec?
Eh bien, mon cher, je me suis mis sur le booking ce matin même.
Ouh, d'accord. Donc, c'est une question d'actualité.
Le gars, il est bien craqué. Écoute, il est super motivant. Puis là, ben, tu sais, je vois qu'on peut recommencer à faire des choses. Mm-hmm. J'ai recommencé aussi à faire de la pige avec d'autres artistes.
OK.
En tant que musicien, là, comme bassiste ou batteur.
Ouais.
Fait qu'à matin, ben c'est ça, j'ai déjà commencé à envoyer des mails pour regarder ça. On va voir comment ça va aller, là, mais je te dirais, je vise pas mal le début 2022 pour commencer à aller faire des spectacles un peu partout. Puis oui, Québec, je veux y aller, ça me tente au fond, là, sérieusement.
Ben, on va avoir un grand plaisir d'aller te voir sur scène puis de te recevoir en studio si jamais tu veux passer. J'ai envie de te questionner un peu sur cette façon-là de jouer ta musique devant le public comparativement au studio. Est-ce que tu as une idée déjà de comment est-ce que tu veux mettre ça en scène ou tu veux être vraiment proche de ce que tu fais en studio? Comment tu vois ça?
Comment je te dirais? Le studio puis la scène, c'est toujours deux choses hyper différentes.
C'est ça.
Sais, j'aime beaucoup me rapprocher de ce qu'il y a sur le disque, mais il faut quand même être conscient que c'est du studio, là. Fait que j'ai fait des tracks, des fois peut-être 8 guitares, ben là, j'engagerais pas 8 guitaristes.
C'est
là,
ça. Ça
va me coûter trop cher.
Oui.
Mais je me rapproche tout le temps un petit peu, puis tu vois, au lancement que j'ai fait lundi passé, j'ai fait ça en trio, un drum, voix guitare, puis le gars qui faisait les keys, il a fait des back vocales, puis de la bass aussi, bass synth, Siméon qui s'appelle.
Ouais.
Puis super bel job. Écoute, en trio, j'ai comme fait, OK, ça peut marcher. Fait que là, on dirait que ça me tente d'aller vers ça, là, une petite formation trio. Il y a moins de monde dans les salles aussi, tu sais. On est plus petit sur le stage. En tout cas, bref, c'est pas mal ça à date, à moins que les choses changent.
Ouais, puis j'ai l'impression aussi que même si on classifie ça comme rock, ton projet, c'est quand même quelque chose qui s'écoute d'une façon, justement, un peu en 5 à 7, qui s'écoute puis qui j'ai envie de dire qu'il se feel plus en mode, justement, décalé un peu. Est-ce que je me trompe?
C'est ça. En fait, du David Couture, ce talent-là, il est beaucoup inspiré par le rock, le pop, mais beaucoup de folk aussi,
ouais,
même country un peu. C'est un joyeux mélange de tout ça qui s'écoute très bien, comme tu dis, en 5 à 7 ou même... On fait une soirée aussi.
Oui, ben,
même le matin.
Je sais pas si tu le vois, là, mais j'essaie de faire ton pitch aussi de bookage, là, de faire
c'est
ça à Québec.
Parfait, mon gars, je t'engage.
C'est super. Ben, j'ai envie de conclure cette entrevue en te demandant qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cet automne, pour le début de 2022, pour la suite des choses.
Beaucoup moins de cas de COVID.
Oui.
Hein?
C'est une bonne réponse.
Qu'on puisse continuer à sortir un petit peu comme on fait là. Ça fait tellement du bien de revoir nos amis, puis de chemin, puis d'aller voir des spectacles, puis tout ça. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça qui ferait mon bonheur, mon cher.
Ben, c'est une très, très bonne réponse. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, David Couture. Mais comme je l'ai dit, si tu viens à Québec pour un spectacle ou juste pour le fun, ça va nous faire un très grand plaisir de te recevoir en studio. Merci beaucoup d'être passé à Chérie J'arrive.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis merci à toi, Félix.
Super. On y va avec ta chanson De mon cœur. Et puis après ça, moi, c'est la conclusion. Donc, je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine.
Toi de même. À plus.
Salut.
Bye.
C'est déjà le temps de conclure cette émission du lundi 20 septembre. Et de quoi j'ai parlé aujourd'hui? J'ai parlé de Cash Cash, le EP des Lunatiques. C'était avec Antoine Bourque. J'ai parlé de Popcorn, de cinéma avec Antonine Lajeunesse. J'ai parlé de Maria Chapdelaine avec Sébastien Pilote, le réalisateur. Ce film qui sort partout au Québec vendredi. J'ai parlé avec Gabriel Tremblay pour son retour sur le Festival de jazz de Montréal. J'ai parlé avec Julie Tremblay pour le Festival Artichaut. Ça a lieu en fin de semaine au 20 Boulevard Charest. Je vous invite à aller là-bas si jamais vous vous trouvez. Si vous cherchez une activité d'art et de culture à faire à Québec, eh bien, c'est la chose à faire. Artichaut, le festival en Basse-Ville. J'ai parlé avec David Couture aussi de son album Sortir, qui vient justement de sortir vendredi. Et on a pu discuter de sa création, des sujets qu'il aborde, de sa façon de composer et de continuer à faire de la musique à travers cette pandémie. Ben, je vous dis déjà à demain. On a une grosse soirée en perspective, une soirée électorale à Chiz. Donc, restez des nôtres pour ne rien manquer des nouvelles politiques. On va espérer que le vote va bien tourner. J'espère que vous avez voté. Il est encore temps, si vous n'avez pas eu le temps, justement, allez voter, profitez de la démocratie. Et moi, je vous dis à demain. On se voit au comté de 16h, comme à l'habitude. Vous le savez, Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de 16h à 17h30. Demain, il y a la chronique cinéma d'Émile Lapointe qui va avoir lieu. Il y a Catherine de Renverser à l'ananas. C'est pour une nouvelle théâtrale. Donc, manquez pas ça demain à l'émission. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Bye bye.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de